Jobless Hands Town.
Voici les chroniques de Tony Web. Nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de vous présenter
la chronique de la semaine,
présentée aujourd'hui par
Khamsa Ali Jamal.
Bonjour Monsieur Khamsa Ali Jamal.
Bonjour.
Nous allons parler un peu des élections qui se sont déroulées dans notre pays, les îles Comores. Que pensez-vous des résultats des élections qui se sont déroulées ?
Alors la première des choses à relever, c'est d'abord le record de l'abstention. C'est-à-dire que le premier gagnant de ces élections, c'est le parti des abstentionnistes, qui s'est mobilisé pendant la période de la campagne pour faire campagne contre ces élections. 48,9% d'abstention en Grande Comore et 33,8% en Mohéli, si on totalise les bulletins nuls, c'est quand même énorme. Et cette victoire de ce parti est la conséquence de l'échec de la politique menée par Mzéad Dessoulé El Bak, qui a conduit son mandat autour des querelles de compétences. Cela dit, le CRC a eu une claque, l'UNDC une gifle, et le parti Jawab un tsunami, le Kassia La Comore un désastre. Et les autres parties des dinosaures s'effondrent de nouveau. El Bak n'a pas pu résister à la débâcle et se dégringole. Idriss Mohamed et le nouveau venu ont connu malheureusement un cauchemar.
Quels sont les grands vaincus de ces élections ?
Eh bien, les grands vaincus de ces élections, c'est quand même Issouf Saïd. Il a fait un score extrêmement très bas, avec 1,8%, donc moins de 5 points par rapport aux élections de 2002. Mais aussi, Saïd Ali Kemal, qui enregistre moins de 7 points, Emtara Maesha aussi, qui enregistre moins de 4 points par rapport aux élections précédentes. Pour eux, c'est vraiment l'enfer. Par contre, Abdourahouf et Maître Fahmi ont fait un score quand même honorable. Ils n'ont pas pu résister à la déferlante Larifouyenne et Abdourahabienne, mais leurs consignes de vote vont peser sur l'issue du résultat du second tour, parce que tous les deux ont réalisé un bon score. Le premier a eu 6%, le deuxième a récolté 5%, mieux que son frère aîné. Ce n'est pas un score de conquête, certes, mais un score de visibilité, sans aucun doute. Ils vont jouer les arbitres du second tour en Gazidia.
Quelles sont les stratégies d'avenir pour peuvent avoir les partis qui ont connu la défaite dans ces élections ?
Alors, ça c'est tout simple. Les dinosaures doivent accepter la réalité politique. Le parti Jawab doit revoir en profondeur son idéologie, ses stratégies d'alliance, voire son leadership. Quant à Mohamed Mchangama, avec ses 3,4%, il a du pain sur la planche pour effacer les stigmates des Taromba qu'on lui colle sur son dos, et qui a eu évidemment un effet sur l'issue du scrutin. Et au nouveau venu de s'investir dans le terrain sur la longue durée, tout comme celle de Larifou, c'est-à-dire de passer de la politique bisonnière à la politique à temps plein.
On a constaté que les candidats qui sont proches de la présidence de l'Union ont remporté les élections.
Vous avez tout à fait raison, Abou. Une partie des électeurs ont fait le choix rationnel, voire même purement politique, pour Saïd Larifou et Mohamed Abdelwahab en Grande Comore, et pour Mohamed Ali Saïd et Mohamed Saïd Fadil à Mohéli. On peut se demander, mais qu'est-ce que signifie ce vote pour ces hommes proches de Sambi ? C'est tout simplement parce que les Comoriens ne veulent plus d'une cohabitation. La cohabitation constitue aujourd'hui un obstacle pour la mise en œuvre des réformes annoncées par le chef de l'État. Le choix pour ces hommes sambistes, par affinité pour les uns et par adhésion politique pour les autres, va mettre fin, en tout cas à la Grande Comore et à Mohéli, à l'immobilisme politique. Saïd Larifou a soutenu Ahmed Abdallah Sambi. Il était le premier à lui apporter en 2006 ses 3,12% des Chadouli Abdou d'Anjouan. Et Abdul Wahabi a été son directeur de campagne et dernièrement son directeur de cabinet. Ils ont montré leur confiance vis-à-vis de la bonne volonté sambienne. Une fois élus, ils vont faciliter l'action du président de l'Union beaucoup plus que de l'handicapé. En clair, ces résultats expriment un rejet massif de l'expérience de la cohabitation et un désir de l'Union. Les Comoriens, en votant pour les deux candidats proches de Sambi, à Moheli et en Grande Comore, ils ont agi comme s'ils voulaient ratifier, renforcer, amplifier et témoigner de nouveau leur confiance vis-à-vis des chefs de l'État. Enfin, on peut dire que ce vote massif en faveur du candidat du parti Rija Angazija, c'est un choix clair pour celui qui est sur le terrain, qui défend à bras-le-corps les institutions, tandis que le vote pour Abdelwahabi, aussi Angazija, c'est un vote d'effet Sambi. Le premier, c'est un choix politique d'adhésion, de conviction à des idées, à des programmes et à des actions. Le second, c'est un choix pour une personnalité, le chef de l'État.
Puisque ces deux challengers sont proches d'Ahmed Abdallah Sambi, notre président, quelle sera sa position?
À mon avis, il ne prend pas position. C'est son intérêt d'incarner la nation, l'État et l'ensemble des citoyens, de se positionner comme étant le chef de l'État, au-delà des partis. Soutenir l'un aux dépens de l'autre affectera beaucoup son image qu'il veut imposer, le style qu'il veut incarner, la rupture qu'il veut réaliser. D'autant plus que ça pourrait retourner contre lui, parce qu'en cas d'échec de celui qu'il aura soutenu, ça sera comme un échec personnel. Toujours est-il que c'est des hommes ont la même position vis-à-vis de sa politique ou de sa légitimité et des institutions, avec une petite différence qui est une différence d'ordre d'affinité personnelle ou pas du tout politique. Cela est vrai pour les candidats aussi qui sont au deuxième tour à Moheli.
Et les électeurs, comment vont-ils se positionner entre ces deux hommes qui se ressemblent?
Alors, c'est des hommes, bien sûr, qui sont au deuxième tour en Gazidja, Abdelwahab et Sedd Larif ne ressemblent pas du tout. La seule similitude se situe sur les positions vis-à-vis de la légitimité du chef de l'État et probablement vis-à-vis de sa volonté à changer. Mais ils se différencient l'un à l'autre. Le premier s'économise, le second se gaspille. Abdelwahabi se calfeutre, Larifou s'expose. L'un est chevronné d'expérience politique, l'autre est surplombé par les actions politiques. L'homme du bureau a la maîtrise de rouage de l'État, l'homme du terrain la connaissance de la vie du Comorien. Chez le premier, on ne sait pas vraiment de quel côté il est, de quel parti il peut être. Il peut être à gauche comme à droite, ou dans le parti blanc comme dans le parti vert. Son parti, c'est peut-être la volatilité. C'est un électron libre. Et Larifou, c'est un homme d'appareil. Sa clivage politique s'est bien défini, il en fait connaître, il a publié des ouvrages. C'est un homme qui incarne le réel politique et donc la professionnalisation des politiques. Ils sont tous les deux jeunes. Ils sont quinquagénaires. Abdelwahab a fait deux fois le grand mariage. Il fut l'un de la garde rapprochée du régime précédent et l'un de ses de la nouvelle constitution. Larifou n'a pas réalisé le grand mariage, il a été l'un qui s'est mobilisé pour le référendum. Le premier peut bénéficier de sa transparence et propreté politique, le second de sa proximité avec la société d'en bas et de son dynamisme. L'un peut espérer le soutien de la notabilité, l'autre la jeunesse. Si le premier est hyper technocrate, le second est hyper homme politique, qui est partout. Il peut aller voir les étudiants au Maroc ou à Madagascar, construire une bibliothèque à Moroni ou manifester contre les taxes sur le riz. Il peut être à Paris pour défendre la République ou recevoir la famille des naufragés de Samsung ou être l'avocat de Brahim Ali à Marseille. C'est un nomade politique qui construit, défend, écoute, s'impose, instruit. Tandis que le premier peut être ministre de l'Intérieur ou ministre des Affaires étrangères de Mohamed Johar, ministre de la Justice de Mohamed Taki ou conseiller à la Cour d'appel d'Anzali Assoumani. C'est un homme d'État, c'est un homme de bureau. Donc les différences sont claires, les Comoriens peuvent se positionner et s'ils choisissent l'un, c'est bien, s'ils choisissent l'autre, tant mieux.
Merci pour ces explications. Alors, quelle est la mauvaise nouvelle de la semaine?
Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est quand même l'organisation des élections en juin par Mohamed Balkar, parce que ça exprime une dissémination des institutions, l'éclatement du pouvoir. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le chef de l'État, pour Sambi, parce que c'est un coup très dur une fois que l'État n'arrive pas à saisir ou à asseoir son autorité sur une partie de son territoire. Ça, c'est quand même un coup très très dur pour le chef de l'État, pour le gouvernement, voire même pour les parlementaires, aussi bien aussi pour les hommes politiques. Ce qui fait très 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 triste dans cette affaire, c'est qu'il y a des hommes politiques là-dedans qui travaillent pour l'éclatement de la nation. Et ces hommes politiques ont été les bâtisseurs des institutions nouvelles. Donc là, c'est vraiment une mauvaise nouvelle.
Et quelle est la bonne nouvelle de la semaine?
Alors, la bonne nouvelle, c'est le contraire de ce que je viens de dire, parce que on a constaté que les candidats qui sont second tour à Moheli et en Gazitia, eh bien, ce sont des candidats qui sont proches du chef de l'État, qui adhèrent aux nouvelles institutions, qui acceptent qu'il y ait l'union des Comores dans l'ensemble du territoire. Eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a une sorte de désir de l'union. Donc ça fait plaisir et donc ça, c'est une bonne nouvelle.
Eh bien, je vous remercie Monsieur Saadi Jamal pour cette chronique et puis on vous dit à la prochaine.
Merci beaucoup.
Merci.